Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Je dédie cette émission à la Vierge, car nous sommes en mai. Je suis avec mon invité, Bertrand Vergely. Et nous allons parler d'un livre qui s'appelle « Dieu veut des dieux », sous-titré « La vie divine » aux éditions MAM. Ce livre est paru en 2021. La date n'a aucune importance parce qu'il s'agit d'un livre important. Bertrand Vergely n'a pas inventé le titre, mais il l'a dit. Et Jésus lui-même avait dit aux hommes, vous êtes des dieux, et Novalis l'a répété d'une autre manière. Cher Bertrand Vergely, bonjour.
Bonjour.
Bon, vous avez dit, on retrouve, je veux dire, dans ce livre, votre présence, ce qui vous caractérise, la hauteur, la haute spiritualité, la philosophie. On retrouve aussi ce qui vous est cher, l'orthodoxie, qui est, selon moi, le pouvoir de toujours braquer le projecteur sur la lumière, la résurrection, la déification de l'homme, comme elle le braque sur la glorification, au lieu de le braquer toujours sur la crucifixion, comme le font hélas trop les catholiques. Ce livre est un cri d'enthousiasme. Être homme et devenir divin est pour vous la chance de l'humanité. Oui, votre enthousiasme, Bertrand, traverse les pages. Il est même votre moteur. D'habitude, on sépare la vie humaine de la vie divine. Et pour vous, pas vous. La vie divine est pour vous la vie véritable. Elle est à notre portée dès ici-bas. Si l'on vous entend bien, Bertrand, si l'on vous écoute, si on vous lit comme il faut vous lire, avec une attention curieuse, eh bien, je dirais que ce livre est un scoop. Vous offrez une lumière, une consolation à l'individu perdu et malheureux, et également à ce monde en crise. Bertrand Vergely, cher Bertrand, il y a dans ce livre une phrase importante, j'ouvre les guillemets et je la lis. Pour vivre, il faut le maximum et non le minimum. Et une autre phrase semblable d'ailleurs, pour penser, il faut également le maximum et non le minimum. Je vous poserai la question tout à l'heure, mais laissez-moi vous dire que vous êtes comme Dieu, vous souhaitez la plénitude, vous ne voulez pas que nous restions ras des pâquerettes, c'est-à-dire au plus bas de nous. Pourquoi ? Parce que nous sommes faits pour toute autre chose. On vit dans un leurre, et c'est de ce leurre qui est une prison que vous voulez nous sortir. J'ajouterai que dans ce livre, il y a le philosophe, le pédagogue, le professeur, car vous appelez de nombreux philosophes et c'est très intéressant. Maintenant, Bertrand Vergely, l'entretien commence. J'en reviens à votre phrase si importante. Pour vivre, il faut le maximum et non le minimum. Je vous laisse nous éclairer. Qu'est-ce, Bertrand, que ce maximum, vous qui avez par ailleurs écrit que quand on a le maximum, on a toujours le minimum. On y va.
Écoutez, il s'agit de comprendre la relation qu'il peut y avoir entre la vie, Dieu et le divin. Dieu est ce qu'il y a derrière la vie et ce qui fait que la vie est la vie. Et ce qui fait que la vie est la vie, c'est un principe agissant, une cause première, comme le dit Aristote, mais une cause qui n'est pas simplement statique, mais qui est vivante. Et par là même, elle est énergie. Et elle est tellement énergie qu'elle est lumière, c'est-à-dire la suprême énergie qui est capable d'être énergie, agissement, action, immédiatement partout. Et donc là, c'est la caractéristique du divin. Mais ce qui est caractéristique de Dieu, et encore plus extraordinaire, c'est que ce divin est appelé à vivre en toute chose et il vit en nous. Et il vit en nous sur cette présence que l'on sent à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous veut vivants. Cette présence qui nous veut vivants, c'est une présence qui nous amène à vouloir vivre dans la plénitude. C'est ce que j'appelle vivre au maximum. La vie n'est pas là pour vivre une vie banale, mais une vie accomplie, une vie en plénitude, une vie qui est véritablement capable de faire vivre la vie, une vie solaire et qui permet de comprendre l'idée développé par la Bible, comme quoi l'homme a été fait à l'image et pour la ressemblance avec Dieu. Dieu est un soleil et Dieu veut que l'homme devienne à son tour un soleil. Et donc, quand il y a affaire au maximum et pas par rapport au minimum, eh bien, c'est là que nous avons affaire à cette idée de la vie divine, c'est-à-dire de la vie accomplie. Et je crois que nous le sentons en nous, dans la mesure où si nous sommes dans une vie médiocre, nous sommes malheureux. Et si tout d'un coup nous sentons que nous allons dans une vie qui s'élargit et qui nous élève, nous sommes heureux. Et le maximum signifie bien le contraire du minimum, c'est-à-dire le contraire d'une vie qui se contenterait de peu. Ne vous contentez pas de peu. Et c'est là qu'on voit intervenir la royauté et l'idée que l'homme est fait pour vivre une vie royale. Vous êtes né prêtre, prophète et roi. La liturgie catholique le rapporte souvent. Et c'est tout à fait vrai. Cette vie royale est une vie de rayonnement. Un rayonnement qui est un rayonnement à la fois céleste, terrestre, et au-delà du terrestre et du céleste, dans quelque chose d'inouï.
D'accord. Merci de nous parler de ce que vous appelez l'erreur de Freud, qui a voulu briser l'orgueil de l'homme en le ramenant son origine animale.
Oui, Freud, dans un article où il a intitulé les trois grandes blessures narcissiques, explique que, pour son bien, la modernité a blessé le narcissisme de l'homme en modifiant avec Copernic la vision de la planète. Ce n'est plus la planète qui est au centre du monde. Avec Darwin, ce n'est plus l'homme qui est supérieur aux animaux. Et avec la psychanalyse, ce n'est plus la conscience qui domine l'inconscient. Nous apercevons qu'il y a un procès qui est fait dans la modernité en pensant qu'il y a trop d'orgueil dans l'homme. Et le géocentrisme et puis l'anthropocentrisme sont à l'origine de la catastrophe dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire un homme qui se croit tout permis parce qu'on l'a situé dans une situation, dans une position qui est une position royale. Mais je pense exactement l'inverse. Je pense d'abord qu'on n'a pas compris que quand il est parlé de centre, c'est au niveau spirituel, quand il est dit que l'homme est le centre de l'univers. Ce n'est pas au niveau spatial, c'est au niveau spirituel. Quand il est dit que l'homme ne descend pas de l'animal, c'est au niveau spirituel. Et quand il est parlé de la conscience, c'est au niveau spirituel. Si nous prenons les choses à un niveau matériel, bien, il est bien évident que la Terre n'est pas au centre de l'univers, que l'homme n'est pas au centre de toute la création, et que la conscience n'est pas le centre de tout. Mais si nous faisons l'expérience de la conscience, c'est-à-dire de la pensée qui, vivant le fait de la pensée, devient une divine pensée, alors là, tout s'inverse. C'est-à-dire nous apercevons que rien ne vit tant que tout n'est pas allé dans la vie pleinement vécue et la vie divinement pensée, c'est-à-dire totalement pensée. Et c'est là que nous voyons apparaître eh bien, l'extraordinaire nouvelle. Attention, quand il est question de l'homme dans la Bible et dans les évangiles, il s'agit de l'homme accompli, il s'agit du Dieu devenu un Dieu intérieur et se manifestant en l'homme sous la forme du Dieu intérieur. Et ce Dieu intérieur est le Dieu de la plénitude. Et sans la plénitude, eh bien, plus rien n'a de sens. C'est parce que tout est guidé par la plénitude que tout vit. Et donc, je crois que l'erreur que l'on a, ben, c'est une pauvreté d'interprétation qui fait qu'on voit les choses à notre niveau. Autrement dit, si vous voulez, le matérialisme est victime de son matérialisme. C'est-à-dire que le matérialisme ramenant tout à l'existence ici-bas et à la matière, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il ne peut plus comprendre la Bible parce que il comprend, il pense pouvoir, il prend la Bible au premier degré, il croit que la Bible parle de choses matérielles. Il pense que l'Évangile parle de choses matérielles. L'Évangile parle de la vie la plus élevée qui soit. La Bible parle de la vie la plus élevée qui soit. Et c'est elle qui est au centre de tout, c'est-à-dire essayer de faire vivre une vie sans mettre au centre de la vie ce qu'il y a de plus élevé, ben, il n'y a plus de vie. Nous en apercevons quelque chose dans notre monde. Dans notre monde, nous essayons d'éduquer et nous sommes sensibles au fait que les hommes s'élèvent. Imaginez un monde dans lequel on n'éduque plus et on ne cherche plus à élever les hommes, il n'y aurait plus de monde du
terrible.
Tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'élévation spirituelle et morale est au centre de notre vie et c'est elle qui est plus réelle que le concret. Ça ne sert à rien de faire vivre le concret si le concret n'a pas de sens, si le concret ne vit pas pour pouvoir se dépasser. Et donc, je trouve qu'il y a ici non pas tant une absurdité de la Bible et des évangiles, mais qu'une absurdité d'un matérialisme complètement aveugle qui prend ce pouvoir donner des leçons à la Bible et à l'évangile et qui n'a pas fait le minimum d'efforts pour comprendre ce dont il est question quand il est question de Dieu, de l'homme, de la liberté, de la vie. Et c'est la raison pour laquelle, bien évidemment, c'est l'homme accompli qui est à la racine de toute chose. Mais ce n'est pas l'homme en tant qu'individu spatial, ici et maintenant, dans l'univers. Et je pense que c'est l'énorme erreur dans laquelle nous vivons et dans laquelle nous continuons de vivre, parce que malheureusement, nous avons affaire à des gens qui, d'un certain point de vue, sont très savants, très calés, et de l'autre côté, totalement ignorants et complètement, totalement ignorants, parce que malheureusement, méprisants à l'égard de la chose religieuse et spirituelle, et finalement, ce n'est pas tant aux religieux qu'ils font mal qu'à eux-mêmes et à tout le monde autour d'eux-mêmes, en devenant ceux qui prêchent l'ignorance.
Ça me semble très juste ce que vous dites. Alors, vous opposez à juste titre Voltaire, qui propose un Dieu sans vie divine, le grand horloger, à ceux qui veulent la vie divine sans Dieu. Et là, vous m'avez étonné, car je ne m'attendais pas à cette définition qui me plaît. La vie divine sans Dieu, point d'interrogation, le plaisir, vie et plaisir confondus. Plus besoin de Dieu, l'ivresse suffit, écrivez-vous. Alors, je vous remercie de bien vouloir, là encore, nous éclairer.
Ben, écoutez, nous avons affaire à quelque chose qui est merveilleux et qui est donné à travers le Christ, qui est la relation entre l'homme et Dieu et l'homme, et qui permet de comprendre comment tout arrive dans la plénitude. Si on appelle l'expérience divine, le fait de vivre avec le fait inouï de l'existence, qu'est-ce qui permet à un moment de vivre d'une manière réelle? C'est de relier le plaisir qu'on a de vie à l'inouï de la vie, mais l'inouï de la vie également au plaisir qu'on a de vivre. Et c'est pas avoir un plaisir sans l'inouï de la vie, un inouï de la vie sans plaisir. Et donc, qu'est-ce qui se passe?
Pour les gens qui n'auraient pas appris, qui vous connaissent très mal, là, redites-leur ce que vous appelez l'inouï de la vie.
L'inouï de la vie, c'est le fait qu'on vive.
C'est
le fait qu'on vive.
Voilà.
C'est le fait que tout vive, le fait qu'on soit là. Et donc, si vous voulez, vous avez le fait que l'on vive et puis ce que l'on vit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout est divisé et que nous avons oublié le fait de la vie, nous avons oublié le concret, le plaisir de la vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a affaire, par exemple, à d'un côté le dieu horloger, c'est-à-dire il y a un principe intelligent pour pouvoir comprendre l'univers. L'univers est une belle machine qui fonctionne bien, mais il s'avère que ce principe intellectuel n'a rien de divin. Et puis, ça se prétend divin, mais c'est un dieu sans divinité, c'est l'enfermement dans une vision d'un dieu qui sera simplement un dieu cause, lequel permettrait l'intelligence et l'intelligibilité de l'univers. Alors c'est un dieu que les scientifiques aiment bien. Pourquoi? Parce que ça permet de dire, il y a une intelligence de la réalité, et à la base de tout ça, il y a un principe intelligent. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est une vision fonctionnelle des choses où nous avons besoin d'un principe et ce principe permet à la science de fonctionner. Donc, parce qu'il y a un principe, il y a la science. Parce qu'il y a la science, il y a un principe. Mais au fond, l'important, c'est qu'il y ait la science et le principe est au service de la science. Donc là, on a une vision, on pourrait dire, d'un dieu sans divin. Et puis, l'autre aspect des choses, c'est un divin sans dieu, c'est-à-dire c'est le plaisir sexuel, il faut dire les choses telles quelles, et qui devient la communion, la panacée, l'orgasme est érigé en extase. Et là, on dit, on n'a plus besoin de Dieu parce que notre Dieu se trouve dans l'orgasme, dans l'extase érotique. Et donc, on est dans un monde, on était, parce que je pense que les choses sont en train de changer. Mais d'un côté, vous avez la froideur de l'intellect. Et de l'autre côté, vous avez le côté bouillant du ventre. Donc, le cœur.
Je ne comprends pas où vous placez, vous.
Ah, moi, je ne me place pas du tout là-dedans.
Non, mais comment vous faites qu'est-ce que vous pensez ?
Moi, je vous décris la situation.
Un jour, quelqu'un... Le plaisir, vous parlez d'autres.
Moi, je ne parle pas de moi.
Non, je vous dis bien. Mais je veux dire, d'accord. Alors, vous dites que...
Non, alors où je me place ? Mais moi, je vous décris un monde dans lequel on vit.
Oui.
C'est-à-dire un monde à la fois glacial et brûlant. Et dans lesquels il n'y a jamais d'équilibre entre le ciel et la terre et le ciel. C'est-à-dire, il n'y a pas cette douceur...
Et vous
ne
croyez pas qu'il en
fut
comme ça tout le temps ?
Non, mais nous sommes d'accord. Il y a tout un aspect de l'humanité... un aspect de l'humanité qui vit comme ça.
Oui.
C'est-à-dire qui vit immédiatement avec un principe intellectuel ou bien un principe physique... Et puis, dans lesquels le monde est divisé. Moi, ce n'est pas du tout le monde dans lequel je vis. Le monde dans lequel je vis, qui est celui que vous aimez également, c'est un monde dit de plénitude, dans lequel, à un moment, il y a une relation entre le ciel et la terre et le ciel, entre ce que vous vivez dans votre corps et ce que vous vivez dans votre âme, qui vous permet d'aller dans l'esprit, et inversement.
Oui.
Voilà.
Oui, je vous rejoins. Enfin, à ce niveau-là. Bon, vous dites que l'esthète fusionne avec tout.
Comment ?
Vous dites que l'esthète fusionne avec tout.
Oui.
Il aurait ce don. Il passe en effet le plaisir avant le discernement du bien et du mal. Pourquoi ? Faites-vous intervenir la morale ? Vous qui, tout compte fait, si je ne me trompe, reconnaissez très bien les grandes sensations et l'inouï, comme vous dites, de la vie, de la beauté et de la communion avec les êtres et le monde. Pourquoi ?
Pourquoi quoi ?
Vous dites que l'esthète fusionne avec tout, qu'il aurait ce don, et qu'il place le plaisir dans le discernement du bien et du mal. Pourquoi est-ce qu'il devrait avoir le discernement du bien et du mal, l'esthète ?
Eh bien, parce qu'à un moment, vous avez l'effet de l'esthétisme qui fait qu'on joue avec tout.
Oui.
Et le problème est le suivant, est-ce que je peux jouer avec tout ? Eh bien non, ça s'appelle la perversion.
Et
le pervers, vous pouvez être un artiste et vous pouvez être un pervers.
Oui, mais dans la vie.
Mais dans l'art également.
Donne-moi un exemple.
C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des choses que vous montrez et vous dites non, c'est de l'art, c'est l'horreur que vous essayez de faire passer pour de l'art. Alors là, il faut faire attention.
D'accord, mais ça, ils vendent des tableaux.
Comment ?
C'est pas parce qu'un peintre présenterait l'horreur que ça serait l'horreur comme tableau.
Attendez, il y a deux manières et manières. Il y a une manière de présenter l'horreur qui est de vous faire apparaître l'horreur comme belle. Et là, on a affaire à une perversion, non pas tant de l'art, mais de l'esthétisme. Une chose est l'art, une autre est l'esthétisme. L'esthète, peut-être que vous n'en avez jamais rencontré. Oui. Moi, j'en ai rencontré des esthètes. Des esthètes, ce sont des gens qui se servent de l'art pour jouer avec tout et rire de tout. Mais je suis désolé.
Non, mais là, vous ne parlez pas des peintres esthètes.
Je vous parle des esthètes et je ne vous parle pas des peintres.
Mais ces esthètes dont vous parlez.
Vous en parlez. Si vous relisez.
Les intellectuels sont complètement idiots.
Si vous relisez le livre qu'Étienne Born a consacré au mal,
vous voyez
qu'une des figures du mal, c'est l'esthète qui joue avec tout et qui, à un moment, se sert de l'art qui est magnifique pour pouvoir justifier toute chose. Donc ça, c'est autre chose. Et vous avez, quelque part, la perversion, les détournements du principe de beauté pour, à un moment, au nom de l'art,
magnifier la laideur.
Mais la banaliser. Vous avez quelque chose qui s'appelle la banalité du mal et la banalisation
du mal.
Il y a une banalisation du mal qui se fait dans le discours qui se fait à travers... le fait de tout justifier et
oh ben
par le fait de jouer
même,
avec tout. Mais je ne vous parle pas de l'art, je vous parle de l'esthète,
oui,
qui est une catégorie philosophique.
Oui,
vous avez, à un moment, vous avez des esthètes qui ne sont pas des peintres.
Oh, c'est évident, ils sont comme des critiques, c'est tout.
Non, ce n'est même pas des critiques, ce sont des joueurs.
Oui.
Et ce sont, à un moment, c'est le jeu intellectuel qui aime bien, qui se sert de l'art pour pouvoir, en fait, tout justifier, tout et n'importe quoi. Ce n'est pas, surtout pas n'importe quoi, c'est ce qu'il y a de plus violent, de plus transgressif. Donc il faut faire attention à ça.
Oui, mais à votre avis, à quoi ils servent les esthètes ? Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer, vraiment, les esthètes ?
Écoutez, je ne sais pas quel est le rôle, parce que ce n'est pas à moi de dire quel est le rôle par rapport. Je vous dis qu'ils existent.
Oui.
Et qu'à un moment, j'ai rencontré, quand on réfléchit sur la question du mal, vous apercevez que le comble du mal consiste à dire que le mal n'existe pas, parce que tout est une affaire de jeu. Et donc, on joue et c'est le plaisir de jouer. Et pour moi, ce n'est pas tant le peintre, parce qu'une chose est de peindre, et à un moment, donc, ce qu'on pourrait avoir en peinture, ce qu'on appelle la transfiguration du lait, voire la transfiguration de l'horreur, avec des gens qui, dans les termes, jouent à être les peintres de la pensée et se permettent de tout justifier. Et donc, à un moment, si vous voulez, ce sont comme les fours crématoires, ce n'est pas drôle.
Non, c'est pas drôle, non,
voilà.
C'est pas drôle.
La torture, c'est pas drôle.
Non.
Et la torture, c'est pas joli, voilà.
Mais vous voulez dire qu'ils le mettent ?
Comment ?
Ils font des tableaux avec.
Non ! C'est vous qui me ramenez tout le temps au peintre.
Bah parce que l'esthète, je vois pas l'importance de l'esthète. C'est un intellectuel pour moi qui dit rien.
Eh ben, pour moi, voilà. C'est très important. Et pour moi, l'intellectuel, c'est le jeu, parce que j'ai eu affaire tout le temps à des esthètes qui n'étaient pas des peintres, mais qui utilisaient l'esthétisme pour pouvoir tout justifier. Et donc ça me paraît extrêmement grave.
Ouais, c'est une expérience personnelle.
Non, c'est pas une expérience personnelle, simplement, c'est la question du pervers. Et donc ça, c'est une véritable question à l'intérieur de la morale et en même temps de la vie psychologique. Vous rencontrez des pervers.
Oui, mais il y en a partout, hein.
Oui, et c'est ce que vous qualifiez d'intellectuel très justement, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, je suis pas là-dedans. Et moi, alors pour l'instant, on est dans un monde où on en est un peu préservé, mais à un moment, il y avait cette volonté de vouloir être subversif, de vouloir tout transgresser en étant pervers et en disant « mais le mal, pourquoi pas, ça peut être très beau, etc. » Mais ça, c'est dans le discours.
Oui.
Quand vous êtes un peintre et tout, c'est autre chose.
Voilà. Ben moi, il n'y a que les peintres qui m'intéressent, pas les esthètes.
Mais moi aussi. Mais moi, je vais vous dire, le problème des peintres, les peintres me passionnent, mais les esthètes, on est obligé d'en tenir compte quand on a affaire à la question du mal.
Bon, enfin, moi, je m'en fous. Hein.
Non, moi, je m'en fous pas.
Moi, je m'en fous.
Bon.
Chacun son truc. Hein. Non, moi, j'aime les peintres, et s'ils représentent même le mal, s'ils le représentent d'une manière très belle, ça ne me dérange pas.
Non, mais le problème...
Parce que j'aime pas, c'est la laideur.
Oui, non, mais quelque part, vous avez le même problème avec la laideur. Vous avez à un moment des gens qui aiment la laideur et vous avez des gens qui peignent la laideur. Mmh. La caractéristique de ceux qui peignent la laideur, c'est que souvent, c'est très beau. Et donc, au sens positif du terme, ils la transfigurent.
Oui, c'est ça.
Mais il y en a d'autres qui jouent...
Le jardin avec les choses banales.
Oui, oui,
les transfigurent, les magnifiques.
Oui, non, mais ça, c'est magnifique, c'est autre chose.
Non, je comprends ce que vous dites.
Il y a quelque chose à faire... Parce qu'à un moment, vous devez vous poser. Le problème, le paradoxe du mal, c'est de dire qu'à un moment, rien n'est mal. Et c'est ce qui fait que vous pouvez jouer avec tout. Et vous avez affaire à la malignité. Et donc, vous faites les pires des choses qui se passent, mais tout le monde rigole. Vous voyez
oui.
Et moi, je rigole pas,
non,
et vous
non plus.
Je
rigole pas. Non.
Très bien.
Non, je rigole pas.
Nous sommes d'accord.
Je rigole pas. Je n'ai pas envie de rigoler. Je rigole pas. Oui, non. Oui, bon, je vous rejoins. Alors, quelle était mon autre question ? Il y en a, vous savez, on n'aura pas le temps de tout faire, mais il y en a beaucoup. Hein. Alors, donc, de questions, je veux dire. Ah oui, bah, je ne vais pas revenir à l'esthète. Hein. Je vous avais peut-être raison quand vous écrivez que l'esthète...
Vous voulez, Étienne Borne parlait des trois figures des mâles, à savoir ceux qui banalisent la cruauté,
oui.
L'esthète, l'avare et le fanatique.
Ah oui, l'esthète.
Il prenait les trois stades de Kierkegaard, à savoir le stade esthétique, le stade moral et le stade théologique.
Ah oui, je l'ai lu, j'aime beaucoup Kierkegaard.
Étienne Born reprend d'une manière géniale les trois stades de Kierkegaard et montre qu'on les retrouve à l'intérieur du mal, les trois stades du mal. Et vous avez le premier stade, le stade esthétique. Pour Kierkegaard, c'est Don Juan qui aime la vie.
Voilà,
et pour Étienne Born, c'est l'esthète qui joue avec tout.
Ah oui,
vous avez l'avare au niveau moral. Le niveau moral, c'est Socrate qui a une ironie à l'égard des hommes qui, disons, ont perdu tout sens de sagesse. Et vous avez l'avare qui donne des fausses leçons de sagesse. Et après, vous avez l'avare. Le fanatique qui donne des fausses leçons théologiques parce qu'il tue au nom de son Dieu.
D'accord.
Donc on pourrait dire que l'esthète donne des fausses leçons de beauté.
Oui, on n'a qu'à pas l'écouter. Non mais là je réponds tout simplement, on n'a qu'à pas l'écouter.
Malheureusement, tout le monde n'a pas votre sagesse.
Ouais. Je brille pas par la sagesse, mais enfin, si vous le dites, c'est bien. Bon, alors vous avez montré l'importance du moi lors d'une expérience existentielle forte. Le sentiment qui vous a saisi dans la nuit un soir d'été, un vrai vertige à la Pascal, c'est bien le moi qui l'a vécu, c'est bien votre intériorité, vos sens qui vous ont fait percevoir une réalité au-delà de la réalité. Le monde, avez-vous écrit, n'était pas devant vous. Il est moi et je suis lui. Vous étiez en crise là.
Non, je ne suis pas en crise, je suis dans un état qui s'appelle la communion.
Oui.
Et la caractéristique, caractéristique de la
communion, pour m'amuser,
c'est que vous n'êtes pas en face du monde, vous n'êtes pas en état de délire, mais jamais vous n'avez été aussi conscient.
Oui, je comprends.
Et donc, et aussi présent à ce qui est. Et je me permets de rappeler que l'état de communion, pour Hegel, est l'état absolu de la philosophie. Et à la fin de l'Encyclopédie des sciences philosophiques, il cite, il explique que ce qu'il appelle Dieu, c'est l'unité de l'intérieur et de l'extérieur. Et il rajoute, c'est ce que la philosophie a toujours cherché et cherchera toujours. Et il cite la Bhagavad Gita et il cite Mevlana Rumi, qui est un poète soufi, dans lesquels il voit le divin à travers tout et tout à travers le divin. Et là, nous assistons à quelque chose qui est le regard philosophique absolu, celui de Platon, la Théoria, celui de Spinoza, voir les choses avec les yeux de l'éternité. C'est-à-dire, vous êtes dans le réellement vivant, le réellement réel. Et quelque part, tout irradie de beauté. Et cette beauté n'est pas une beauté abstraite, elle est extraordinairement concrète et charnelle.
En citant Hegel, j'aime beaucoup Hegel.
Ben oui.
Hegel, bon, la phénoménologie de l'esprit, on ne peut pas le lire s'il n'y a pas un professeur à côté.
Il faut.
Et Kojève est un grand. Il a bien expliqué, j'étais toujours avec son livre. Mais c'est vrai que j'aime, il se place à un très haut niveau, Hegel.
Il se passe au niveau de l'absolu.
Mais c'est l'intérieur, l'extérieur, tout est lié, thèse, antithèse, synthèse, tout est réuni chez lui.
Oui,
monde est chair, tout
oui,
est...
Oui, mais parce qu'il y a cette volonté de retrouver l'unité absolue.
Oui.
Et, qui ne fait pas l'économie de tout ce qui existe, mais qui rassemble tout ce qui existe à travers une succession de dialectiques et de dépassements. Tout à fait d'accord avec vous, mais ce que je trouve très beau, c'est effectivement d'expliquer cette plénitude.
Ah, c'est vrai, mais il était complètement pour la totalité, la plénitude.
Il était pour l'absolu.
L'absolu, c'était sa dominée.
Et l'absolu, c'est en même temps ce qui vit ici et maintenant. Et tout d'un coup, il y a le moment inouï de la vie où il n'y a plus d'opposition entre l'absolu et ce qui vit ici et maintenant. Et là, nous avons affaire à la science de la conscience, l'expérience de la conscience. Là, on peut dire qu'il y a eu une véritable pensée. Cette véritable pensée, c'est ce qu'on peut appeler la vie même, la chose même. Donc, nous sommes dans la vie qui parle d'elle-même. Et là, il n'y a rien à dire qu'à se mettre entre parenthèses pour laisser exprimer cette vie absolue.
Mais Kant, il était pour l'absolu dans tous ses livres, mais autant, Kant, je rigole, autant il était conceptuel, quand on se demandait pourquoi il a été conceptuel à ce point. hein, il pouvait intéresser que les intellectuels dans la phénoménologie de l'esprit. Autant pour les livres d'histoire et les autres livres, je trouvais un écrivain formidable. Hein.
Mais même pour le concept, il y avait une volonté chez Hegel de ne pas se laisser perdre le trésor de la relation entre l'absolu et d'autre part l'ici et maintenant.
Voilà.
Et si on a une vision trop sentimentale de cela, c'est très plaisant dans un premier temps, mais c'est catastrophique parce qu'on ne va pas évoluer. Et ce qu'il fallait, c'est travailler et montrer comment cela travaille de l'intérieur. C'est
pour ça oui, que... Bertrand, mais il est resté uniquement, reconnaissez-le, conceptuel dans ce livre.
Ah non, mais il n'est pas conceptuel.
On ne peut pas le lire, personne ne peut le lire.
Il est totalement conceptuel, voilà. Et je comprends très bien ce que vous dites. Pour un certain nombre de
personne
contemporains et la majorité, c'est illisible.
Non, c'est illisible, même pour quelqu'un qui fait de la philo. Si on ne nous l'a pas expliqué, c'est illisible. Tandis dans le reste, il écrit très bien, il est très clair, il est très...
Non, mais il y a des moments poétiques, des moments qui sont lyriques même et qui sont très beaux. Et puis, il y a des moments qui sont ardus.
Voilà, mais j'ai aimé ces livres sur l'histoire, je me suis régalé en lisant ces livres sur l'histoire, tandis là je me suis barbé.
Non, mais il y a un côté visionnaire.
Ce qui est beau, c'est d'en extraire le principal,
très
Hegel,
bien.
Mais dans les concepts.
Voilà.
On se barbe, hein. Écoutez, on n'est pas enchanté là quand on lit.
Non, mais c'est pas qu'on se barbe, c'est que
on
est dans un passage extrêmement ardu, difficile,
oui, voilà,
aride.
Voilà.
C'est aride.
Et voilà. En revanche, la substance, elle est belle, hein.
Oui, oui.
On peut le dire. Non, j'aime beaucoup Hegel. Ah oui, alors, excusez-moi, hein, parce que je regarde les photos, je ne veux pas sauter. Vous avez admirablement parlé de la divine présence. Là, je vous laisse la parole.
Ben, écoutez, la divine présence, c'est l'expérience extraordinaire du Christ à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire du Dieu fait homme, où tout d'un coup, nous sentons vivre en nous, comme le dit Paul dans l'Épître aux Galates. Ce n'est pas moi qui vis en moi, c'est lui qui vit en moi.
Voilà,
et
ça.
Il y a en nous un extraordinairement vivant. Qu'est-ce que c'est que cet extraordinairement vivant? C'est la volonté de vie qu'il y a en Dieu et qui se manifeste en nous sous la forme de notre principe vital. Et donc, nous faisons l'expérience de la présence divine. Et ce qui est une merveille, c'est de vivre avec elle, de se laisser inspirer par elle et de dialoguer avec elle. Et ça, c'est une pure merveille.
Je continue sur le même sujet. Que voulez-vous dire quand vous dites que la mer, la montagne, la campagne ne sont plus ce qu'elles sont quand nous les vivons de l'intérieur, mais des sanctuaires et des lieux habités? Que veut dire pour vous vivre les lieux de l'intérieur? Moi, j'arrive à le comprendre, hein, mais enfin, et ne les vivons-nous pas toujours ainsi, puisque nous les voyons, les respirons avec cette communion qui existe toujours entre eux et nous?
Mais écoutez, c'est ce que nous vivons autour de nous. Quantité de gens aiment la campagne. Beaucoup de gens, une partie des Français vont à la mer en été. Certains, quand ils peuvent se payer, vont à la montagne en hiver. Et on aime la mer, la montagne, les forêts, la campagne. Et on les vit spirituellement. C'est-à-dire qu'on vit, quand on se plonge en eux, on se tait et on laisse rentrer la présence cosmique qui s'exprime à travers eux. Et nous vivons ici une expérience de présence divine à travers cette présence cosmique. Et je crois que cet état est un état de communion magnifique qui permet de comprendre que la vie poétique, qui est celle qui est montrée par le romantisme, où on vit le caractère divin de la nature, eh bien, c'est une leçon divine qui nous est donnée à partir des éléments.
Oui, puis il y a la communion physique aussi.
Mais c'est
avec les éléments.
Mais quand vous êtes dans une... Quand je vous parle de la mer, de la montagne...
Oui, c'est physique.
Je vous parle de l'expérience qu'on a de prendre un bain de mer comme Camus dans les noces et de faire l'expérience de la montagne comme Nietzsche disait que la philosophie se pratique en haute montagne. Et puis, dans l'expérience, un moment de la terre ou de la forêt, telle qu'on les trouve dans les grands poèmes philosophiques, où tout d'un coup, il y a cette quelque chose de céleste nous s'est donné à travers ces éléments qui sont extraordinairement charnels.
Voilà, vous avez dit le bon mot. Parce que je trouve qu'il y a une liaison totale entre le physique et le spirituel.
Mais tout
justement.
À fait.
Dieu parle
par le corps.
Voilà.
Et il parle par l'âme, il parle par l'esprit, mais il parle par le corps.
Voilà.
Et il faut bien voir qu'il y a des choses qui nous sont transmises de l'intérieur, de la racine de notre être.
Oui. Ah oui. Alors, vous avez mis l'accent sur la vertu, mais il est bon de remarquer, comme vous l'avez fait, que la vertu n'est pas toujours et seulement une notion morale. Bon, c'est vrai qu'on en a souvent parlé pour les autres livres, mais vous auriez quelque chose à ajouter ?
Écoutez, je pense qu'il faut revenir à la question de la vertu, qui est la question de la qualité, qui est la question de la nature, et ensuite qui est l'expression du bien pour l'expérience humaine. Et je pense qu'il faut relier les questions du bien sur le plan moral et sur le plan spirituel à l'expérience de la qualité des choses. C'est-à-dire la qualité des choses est un enseignement qui nous invite à vivre en nous ce qu'elle nous donne. Qu'est-ce qui caractérise la vertu des choses ? C'est qu'elles sont ce qu'elles sont. Et il y a une force d'être qui les maintient dans leur identité avec fermeté. Et ce qui est passionnant, c'est de voir l'expérience de la vertu du point de vue moral, où la morale renvoie à la force morale, et la force morale nous emmène à la force céleste. Tout est une éducation qui va de la qualité sensible à la qualité morale pour aller à la qualité ontologique et la qualité de l'être. Et l'un aiguise l'autre.
D'accord, mais là, c'est votre point de vue. Hein.
Bien évidemment.
Voilà, ce n'est pas le mien obligatoirement. Mais c'est votre point de vue, de mettre l'importance de la morale pour aller au reste.
Ben, c'est-à-dire, si j'appelle...
Ce n'est pas une obligation.
Si j'appelle l'expérience morale... Je vois mal, ma chère Isabelle, comment on pourrait se passer de la force morale ou force intérieure. C'est-à-dire, vous avez la force...
Pas s'en passer, mais ce n'est pas elle qui peut dominer.
Mais il ne s'agit pas de dominer, il s'agit de faire avec. Et la caractéristique, pour moi, c'est la plénitude, c'est-à-dire que tout participe à l'expérience de l'être. Et donc, je pense qu'il y a un niveau qui est très physique, qui est la qualité physique, et vous avez quelque chose d'intérieur.
Oui, c'est vrai.
Que j'appelle la force morale, et puis vous avez quelque chose en plus, qui est la vertu spirituelle. Je comprends que vous ne voulez pas qu'il y ait une morale qui nous dicte ce qu'on doit faire. J'ai très bien compris vos préventions à l'égard de la morale. Non, je parle, j'essaye de répondre.
Sur la morale
parce
bientôt.
Que dès que je parle morale, vous prenez un recul. Et moi, je place la morale non pas comme une sorte de loi qui serait extérieure, mais je parle d'une force personnelle.
Non, j'ai compris. Moi, je dirais force de vie, je dirais pas force morale.
Oui, écoutez, moi, je l'appelle...
C'est le mot moral, voilà.
Je comprends la même chose que vous.
Oui.
C'est-à-dire, il y a la qualité, il y a la force personnelle et individuelle, puis après, il y a la qualité ou la force céleste. Mais nous sommes d'accord, moi j'aime beaucoup le mot force de vie, donc ce que vous me dites ne me dérange pas du tout.
Voilà, c'est ça, c'est toujours le mot. Comme vertu, je peux le prendre aussi au sens de force, hein, comme les anciens.
Oui, c'est ça.
Et là, je vous rejoins. Parce que autrement, le côté moral, le truc, ascétisme et tout ça. Bon, alors, vous avez parlé de la divine surprise. Ça, j'ai beaucoup aimé. Voir l'exceptionnel surgir parfois dans nos vies, j'ai beaucoup aimé. Bon, vous me direz que c'est partial, parce que, comme je le pense aussi, je suis partial. Bon, car il y a, dites-vous, la vie normale et la vie exceptionnelle, et j'ai applaudi quand vous avez affirmé, j'ouvre les guillemets, « Vivre consiste à savoir saisir l'exceptionnel dans le normal ». Je vous laisse commenter, illustrer ces propos, qui me semblent quand même l'apanage de personnes... C'est pas monsieur tout le monde, hein, qui pourrait dire ça, et le vivre.
Écoutez,
mais vivre consiste à saisir l'exceptionnel dans le normal. Non, c'est pas tout le monde. C'est un don.
Mais écoutez, c'est une manière d'ouvrir les yeux quand on vit. L'exceptionnel est tout le temps dans le normal. Il y a mille façons de voir l'expression de l'exceptionnel dans le normal. Maintenant, vous avez des gens qui sont prêts et d'autres pas prêts. Vous avez des gens qui dorment et vous avez des gens qui sont éveillés. Et donc, ce que je trouve merveilleux, c'est de s'éveiller et de voir des tas de choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et de dire, mais tu te demandais si Dieu existe. Mais il est là, il est présent, il te parle, il est partout. Et tout d'un coup, les gens disent, n'existe pas. Alors, ils entendent par Dieu, Est-ce que il y a une cause de l'univers, ils font de l'astrophysique, ou alors à un moment est-ce qu'il y a un juge, alors on rentre dans le juridique, et puis ils ne voient pas que la force de vie divine, c'est quelque chose qui commence dans le sensible, une petite chose, et qui va à l'infini. Et là, ce sont des choses merveilleuses qu'il y a partout. Et nous avons 10, 10, 20 occasions, 30 occasions à tous les moments de la journée de percevoir des moments célestes, divins de l'existence.
Oui, mais qui peut être physique aussi.
Mais c'est toujours physique.
C'est toujours physique.
Vous avez tout est à la fois physique, moral au sens intérieur et en même temps transcendant. Matériel, oui. Personnel et transcendant. Donc c'est là où il y a quelque chose de trinitaire qui rentre dans notre vie.
Oui. Voilà. Ah oui, ça me plaît beaucoup ce que vous dites. Ça me plaît. Alors, nous allons laisser passer Bertrand un petit bobino avant de continuer.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Bon, le bonheur ne vient pas du bonheur, il vient de l'être. Puisqu'il vient de l'être, il n'est pas nécessaire d'être heureux pour l'être. Là, je peux vous dire que cette phrase ne peut pas être comprise par tout le monde. Hein.
Non, mais pourtant, c'est l'énorme paradoxe du bonheur. Le bonheur
ne vient pas du
n'est
bonheur.
Pas la satisfaction d'un plaisir. Elle vient de quelque chose qui relève de la joie et pas simplement du plaisir, c'est-à-dire d'être heureux d'exister. Mais dans le bonheur, il y a quelque chose d'au-delà qui vient d'encore plus loin. Il y a quelque chose de céleste qui s'exprime à l'intérieur de cette joie. Et tout d'un coup, vous avez le sentiment de trouver en vous la joie fondamentale. Et donc, il y a quelque chose en vous qui est absolument heureux. Et je prends bonheur comme le fait de ce qui est à la bona ora, qui tombe juste et qui fait que nous sommes à l'unisson avec tout et que nous nous sentons à l'unisson avec nous-mêmes. Bien. D'accord. Et je pense le bonheur, les anciens l'exprimaient par le kairos, c'est-à-dire cette occasion céleste qui fait que tout d'un coup un accord se fait entre notre monde et le monde céleste. Et là, il y a quelque chose d'inattendu, d'extraordinaire qui est donné en plus. Et effectivement, c'est un bonheur d'être. C'est-à-dire, c'est pas simplement le plaisir parce que je ne manque de rien. C'est pas simplement le fait, oui, d'être heureux de vivre. C'est être heureux de la vie, vous voyez. Et pas simplement heureux de quelque chose dans la vie ou de ma vie. Et donc là, il y a quelque chose qui répond à la quête de sens. Est-ce que la vie a du sens? Alors on peut dire la vie a un sens parce que j'ai un plaisir immédiat. La vie a du sens parce que je me sens bien avec moi-même. Mais la vie a du sens parce que la vie en tant que telle a montre quelque chose d'extraordinairement heureux. Donc là, on vit un bonheur au sens supérieur.
D'accord. Oui, je comprends. Oui. Bon, voilà, j'avais écrit que vous avez écrit et que j'avais applaudi la phrase. Le sensible est étonnant, mais vous venez de m'en parler. Quand il est vraiment sensible, il est plus sensible. Sa matérialité devient immatérielle. Oui. Vous venez de m'en parler.
Mais oui, c'est le paradoxe du sensible, c'est que il n'y a pas plus sensible que l'ultra-sensible qui est totalement insensible et imperceptible. Et donc, nous avons affaire ici à quelque chose qui est une coïncidence inouïe entre le visible et l'invisible. À un moment, le visible devient invisible et c'est là où on est au cœur et au maximum du visible.
D'ailleurs, je vous sais gré d'avoir minimisé la métaphysique et d'avoir mentionné son incompétence par rapport au sensible. Elle se demande si derrière la réalité visible existe une autre réalité, et vous, vous répondez « Plongeons dans le sensible en vivant celui-ci et en le laissant vivre. » Il nous donne la réponse. C'est simple, et c'est surtout pour un théologien totalement inédit. Vous réhabilitez le sensible d'une magnifique manière, ici du moins, hein, ici du moins, ce que les religieux ou les moralistes ne font jamais. Êtes-vous conscient, Bertrand Vergely, d'apporter là quelque chose de fort?
Écoutez, j'en sais rien. Vous pouvez être en être conscient. Ce n'est pas mon projet. Mon projet a été d'être juste et de dire ce qui me paraît juste. Et je crois que tout est donné dans le sensible et qu'il n'y a pas plus transcendant que le sensible et qu'il n'y a pas plus transcendant, divin que ce qui se passe à l'intérieur du corps et à l'intérieur des sens, et que l'extraordinaire nouvelle du Christ et de l'Évangile, et c'est le sens de la résurrection, c'est que le corps est totalement céleste. Puisque le Christ ressuscite, et quand il ressuscite en chair et en os.
Bon, ce que vous dites là m'enchante. Parce que c'est la vérité, mais ça me plaît de l'entendre.
Mais c'est extraordinaire. Alors. C'est-à-dire, il est, bien évidemment, il y a la réalité, bien évidemment, il y a quelque chose de tout à fait intéressant, c'est de dépasser la réalité, de sentir la liberté que ça donne. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette liberté est encore plus libre quand elle se trouve dans le monde, dans la matière, ici, maintenant. Alors là, on casse la baraque.
Bertrand, qu'avez-vous voulu dire en écrivant « Ce n'est pas aimer librement qui est fou, c'est vouloir contrôler l'amour ». Je n'ai pas bien compris le rapprochement des deux. Ce n'est pas aimer librement qui est fou, c'est,
alors,
c'est vouloir contrôler
que les
l'amour.
Choses soient claires, ce n'est pas une apologie de l'amour libre.
Hein? Non, mais ça, je n'ai jamais pensé ça.
Non, mais au cas où.
Oui.
Au cas où. Je
non,
sais que,
tu n'y pas pensé. Ce n'est pas aimer librement qui est fou, c'est vouloir contrôler l'amour.
Mais l'amour ne se contrôle pas. Et il y a.
Et pourquoi avoir dit ça?
Ben, il faut voir le contexte dans
oui,
lequel je l'ai dit.
Mais ce n'est pas aimer librement.
Mais parce que la liberté fait peur. Et qu'à un moment, on voudrait pouvoir tout contrôler, même dans l'amour, on voudrait pouvoir contrôler le sentiment
ça, c'est
amoureux.
Fou, c'est fou. De vouloir contrôler.
Mais c'est d'une tristesse totale. Et malheureusement, on s'aperçoit que parfois, on s'empêche d'aimer et on n'ose pas aimer parce qu'on veut contrôler le sentiment et on veut tout contrôler. Mais là, c'est la passion du contrôle qui est
une
catastrophe à l'intérieur de notre monde. C'est plus qu'une maladie, c'est une catastrophe. Et c'est une catastrophe qui emprisonne tout, à tous les niveaux de la vie matérielle, morale et spirituelle.
Oui. Alors... Vous avez écrit « Le divin apparaît quand il y a une intensification telle, soit du concret, soit du spirituel, que l'on passe dans une autre dimension. » Je crois que vous l'aviez très bien expliqué tout à l'heure.
Oui.
Hein, là, vous l'avez très bien expliqué.
Je crois que ce qui est très intéressant, c'est de penser qu'à un moment, il y a ce passage de l'intensification qui fait qu'on passe de la vie à la vie de la vie. Et dans la vie de la vie, on passe à la vie qu'il y a derrière la vie de la vie. Et alors là, on rentre dans quelque chose qui nous est. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a vécu totalement, absolument, c'est-à-dire on a brûlé, c'est-à-dire qu'on a aimé. Et donc, c'est ce que veut dire cette image de l'amour. Hein. C'est très souvent, quand on dit Dieu est amour, ça veut dire Dieu m'aime moi. Mais il n'est pas dit Dieu t'aime toi, il dit Dieu est amour, c'est-à-dire il est un feu. Et un feu d'une intensité extraordinaire qui emmène tout au-delà, tout en étant ici. Et c'est ça qui fait que les choses sont vraiment au-delà, c'est qu'elles sont à la fois ici et au-delà.
D'accord. Bertrand, vous m'avez fait sourire, vous avez encore parlé de cette qualité, de cette vertu qui vous est chère, page 65, hein, la retenue. Mais vous donnez l'exemple d'un banquet et citez Épictète.
Oui.
Mais quand Épictète cite Héraclite et Diogène comme exemple divin, lui donnez-vous raison?
Oui.
Alors, c'est-à-dire pourquoi?
Ben parce que...
J'explique pour les gens, pour les personnes qui nous écoutent. Ne rien prendre de ce que l'on nous sert, montrer de l'indifférence, passer sa vie dans un tonneau. Est-ce du détachement? Est-ce une vertu divine? Je ne crois pas. Et vous?
Moi, je le crois totalement parce que vous avez tronqué ce que j'ai dit.
Pardon.
Non. Ce qui est dit dans la parole d'Épictète, il est dit « Si, dans un banquet, tu ne te rues pas sur la nourriture, tu seras invité à la table des dieux. » Et si dans la vie, tu peux t'abstenir de manger, tu ne seras plus invité à la table des dieux, tu seras comme l'un d'entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Veut dire qu'il y a deux manières de se nourrir. Il y a le fait de se nourrir extérieurement, mais d'être capable de ne pas se ruer sur la nourriture, donc d'introduire une forme d'éthique et de manière de manger dans la nourriture, et c'est ce qui fait qu'on la transforme en un art de savoir manger, une sagesse de la nourriture et pas simplement une pulsion à l'égard de la nourriture.
Non, mais là, il décrit un plouc.
Non.
Quand il dit quelqu'un qui se jette sur la nourriture
mais
quand vous êtes invité.
Mais nous sommes tous des ploucs.
Mais non, mais pas quand on est invité, c'est normal qu'on mange quand même.
Non, mais on ne se rue pas sur la
nourriture. Ben non.
Ça vous est arrivé de voir des gens qui se ruent sur la nourriture?
Oui, mais ce sont des ploucs.
Eh bien, c'est des ploucs. Eh bien, à un moment...
J'arrive pas à voir pourquoi il dit ça.
Ben, c'est déjà la sagesse, en disant, si déjà tu peux ne pas être un plouc, c'est pas mal.
On ne se rue pas sur la nourriture.
Mais si, on se rue sur la nourriture. Vous êtes allé dans des cocktails et vous avez même...
Oui, c'est autre chose, des cocktails debout, ils sont debout.
Quand vous allez, les cocktails, et pas du tout, ils bloquent tout, ils se mettent devant le cocktail, vous pouvez avoir rien. Et vous avez des gens qui se jettent non seulement sur la nourriture,
ah non, c'est vrai, ils se
mais
jettent.
C'est une image, ils se jettent sur tout.
Oui, ils se jettent sur tout.
Du coup, il y a un moment, quelqu'un qui décrivait quelque chose, une scène ridicule chez Tati, il y avait des soldes chez Tati, il y avait deux dames qui se disputaient, l'une avait la culotte, l'autre avait le soutien-gorge, et elles se déchiraient. L'une est partie avec la culotte et l'autre est partie avec le soutien-gorge.
C'est un truc de fou.
Parce qu'on était dans un truc de cinglé. Voilà. Et à un moment, il dit, c'est l'horreur. Bien. Je referme la parenthèse sur Tati. Et on en arrive au deuxième temps. Si tu peux vivre de l'intérieur et pas simplement être nourri par les choses extérieures, tu seras comme un dieu. Et quelle est la caractéristique? Comment?
Je trouve ça idiot.
Mais je ne trouve pas idiot. Vous vivez le dieu qui est en vous. Et vous qui êtes chrétienne et qui aimez les monastères et qui aimez la prière.
Je mangeais bien au monastère.
Vous ne vivez pas Dieu à l'intérieur de vous-même?
Mais si, mais en mangeant, je l'avais à l'intérieur de moi.
Mais écoutez, vous vivez Dieu à l'intérieur de vous-même, ça veut dire que vous êtes comme Diogène et Héraclite,
non,
vous êtes
un
être divin.
Avec lui.
Ben oui,
je mange ou que je mange pas.
Eh ben, écoutez,
je vois pas le rapport.
Mais moi, je vois très bien le rapport.
Ben
vous n'allez pas au bout de la phrase.
Racontez-le-moi.
Mais écoutez, si je vais au bout de la phrase, je trouve merveilleux. Si tu peux un moment t'abstenir de manger et vivre en faisant vivre le Dieu qui est à l'intérieur de toi-même, tu seras comme l'un d'entre eux parce que les dieux vivent complètement le Dieu qui est en eux. Et ce qui caractérise, c'est qu'effectivement, Héraclite a vécu pour le divin et à sa façon, Diogène également. Je trouve ça magnifique.
Qu'est-ce qu'il a fait, Diogène? Rester dans un tonneau?
Pas du tout. Diogène était aimé par les Grecs parce qu'il se moquait d'eux. Et il dit, tout le monde se croyait des hommes, tout le monde pensait qu'ils étaient des gens très bien. Et Diogène est quelqu'un qui éduquait la cité en disant, écoutez, puisque vous croyez tous des hommes, et moi je pense que j'en trouve aucun, je vais être un chien, parce qu'à un moment, il y a plus d'humanité dans celui qui fait le chien que celui qui joue à être des hommes. C'est pour ça qu'il a inventé le terme cynique, qui voulait dire être un chien. Et je trouve merveilleux. Et les Grecs l'aimaient beaucoup, parce qu'ils se moquaient d'eux, il était un peu le fou du roi.
Oui, le fou du roi.
Bah, c'est très bien.
Oui.
Mais il y a une manière, moi je trouve ça très beau à l'époque, que ça a pu exister. Et vous voyez quelque chose, et vous voyez quelqu'un qui est infiniment utile pour le monde.
En quoi?
Dans la mesure où nous avons besoin de gens qui, de temps à autre, nous font avancer. Et pourquoi nous avons besoin? Parce que quand vous ne découvrez pas le Dieu intérieur qui vous fait avancer continuellement, en vous invitant à pratiquer en vous une conversion et une recréation permanente, eh bien, parfois, vous avez des envoyés du ciel qui vous remettent en question. Et ça nous fait du bien.
Oh, c'est bien, ça nous fait du bien. C'est bien. Voilà, c'est bien. Alors, pardon-moi, d'ailleurs. Bertrand, que signifie votre phrase? Il est divin de ne pas être divin.
Ah oui.
C'est... Alors là encore, il faut m'expliquer. Divin de ne pas être divin.
Oui, c'est le divin supérieur. Qui renvoie au paradoxe de la sagesse. C'est-à-dire, il n'y a pas plus pitoyable que le sage qui est attaché à sa sagesse et qui devient jaloux de sa propre sagesse et qui devient ridicule. Le sage est sage quand il est détaché de tout, y compris de sa sagesse et y compris de lui-même en tant que sage. Il n'est pas prisonnier de la sagesse et de son personnage en tant que sage. Eh bien, il faut faire attention aussi ceux qui, à un moment, ont dépassé le divin. Et vous savez qui a pratiqué cela?
Non.
C'était le quiétisme.
Ah bon?
Au XVIIe siècle, vous aviez un extraordinaire mouvement spirituel avec le quiétisme, Madame Guyon et d'autres, et qui, ou même Maître Eckhart, enseignait à ses moniales à se passer du désir de Dieu, en disant, attention, vous avez un désir de Dieu qui est en train de vous couper de Dieu, ça vous rend folle, ça vous rend et acariâtre, ça vous rend insupportable, oubliez Dieu. Et donc, à un certain moment, on est obligé, dans les monastères, de calmer, tellement tout le monde veut Dieu, et tout le monde veut être, veut avoir Dieu, voire même être Dieu tout de suite. Ce n'est pas votre cas, parce que vous êtes pleine de sagesse et vous avez beaucoup de bon sens. Mais je vous signale qu'il y a un certain nombre de dingues et de cinglés dans le monde religieux ceux qui veulent le divin tout de suite. Vous avez parmi les terroristes ceux qui font des attentats et qui disent quoi ? Nous voulons Dieu tout de suite, nous voulons le royaume de Dieu tout de suite. Et quelque part, ils ont manqué de maître qui leur dit calmez-vous. Vous vous calmez à propos de Dieu et vous oubliez le Dieu, vous verrez, il y aura beaucoup plus de divin.
J'avais signé une fois des livres devant un parterre justement de gens qui. De livres de religieux, j'ai pas écrit que ça, j'ai écrit des romans, hein, mais devant un parterre religieux, je veux dire des gens qui venaient. J'en ai vu des dingues, hein.
Oui.
Autant que d'autres qui vont dans des livres érotiques, des salons de livres érotiques. Je ne suis pas allé. Mais j'ai vu des vrais cinglés qui me faisaient peur.
Oui, oui, mais à mon avis, les cinglés ne vont pas dans les salons érotiques. Les gentillets, c'est beaucoup plus hard. Et croyez-moi, vous n'imaginez pas.
Non, je n'imagine pas. Je pense,
écoutez, moi non plus. Mais il y a eu un ou deux livres qui m'a été donné. Sur les récits de boîtes sadomasochistes, on a tout à apprendre, c'est un truc de dingue.
Je ne vais pas.
J'ai la trouille comme vous, c'est à l'opposé. Mais je vous signale qu'il y a des tas de choses que vous et moi, nous ignorons, qui se passent, et les turpitudes de ce monde sont parfois sidérantes.
Oui, mais je parle des gens qui viennent acheter les livres.
Oui, alors il y a des gens qui viennent.
C'est ça, ils me font peur. Et moi, je ne suis pas allé.
Et déjà, ils vous font peur, mais vous avez ceux que vous ne voyez pas, qui n'achètent pas de livres, c'est autre chose.
Ah oui.
Oui, oui.
Non, mais je veux dire qu'il y a dans les religieux, il y a des loufs, hein.
Ah oui, non, mais je les qualifierai. Mais vous avez de tout. Vous avez de tout.
Oui. Oui, mais ils font peur.
Ah oui.
Oui.
Ah oui.
Non, mais il y a un prêtre qui m'admirait. Il ne m'a jamais vu. Il a admiré mes livres. Je n'ai pas mis à m'envoyer continuellement des livres sur le diable, sur le truc. J'ai dit à la maison d'édition, Suisse, soyez gentil.
Oui.
Ne m'envoyez plus ça. Dites-leur que je suis ailleurs. Qu'il arrête, c'est fini. J'ai envoyé une gentille carte parce qu'il m'écrivait tout le temps. Je vous souhaite une belle vie. Voilà.
Vous avez des gens qui, soi-disant, sont malades, contre le diable. Mais en fait, le diable les passionne.
Ah oui, oui. Oui.
Voilà. Bon,
et puis, y a des gens
oublions.
Allez, on oublie. Surtout qu'il y a des gens que je trouve pire que le diable. Alors
vous me direz ce que ça veut dire et à quoi ça renvoie.
Non, je parle en règle générale. Je connais des gens, de 3 ou 4 personnes, ils sont pire que le diable, parce que le diable, c'était un ange. Et le diable, lui, au moins, il n'est pas con.
Oui.
Hein ? Bon, le diable... C'était un ange.
Oui. Non, mais
il a été capable d'aimer le Christ, il a été capable après d'être déçu au point de le haïr, mais il a été capable de le reconnaître tout le temps.
Oui.
Il y a des gens pires que lui.
Ah oui.
Non ?
Non, mais c'est intéressant. Vous n'êtes pas de cet avis, vous ? Écoutez, je trouve passionnant, mais je ne mettrai pas de l'ordre de Jean. Enfin bon, on va oublier.
Oui. C'est en dehors de... C'est une parenthèse. Parce que c'est votre livre qui nous intéresse et qui m'avait beaucoup intéressé quand je l'ai lu. Alors, j'en reviens au quoi, oui. Oui, j'en reviens au compliment. Il est merveilleux de vous entendre tout au long de 2 pages célébrer la mort comme on célèbre la naissance. Et honorer les morts comme on honore, ça m'a beaucoup plu aussi, hein, le nouveau-né dont on prend soin. Oui, c'est merveilleux, d'autant qu'aujourd'hui, certains ne craignent pas d'aller jusqu'à la profanation et des tombes et des corps. Vous avez écrit à juste titre que lorsque la mort et les morts ne sont pas respectés, la vie n'est pas possible et l'humanité non plus. C'est vraiment bien de l'avoir dit.
Ben oui, vous avez quelque chose qui est très important, qui est les morts, les vivants et la séparation entre les vivants et les morts, de manière à ce que on laisse les morts aller vers leur chemin et les vivants aller vers leur chemin. Et c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est de comprendre, c'est que ce que nous appelons mort, pour nous, c'est l'extinction du corps physique et de notre ego, Mais la mort, ce n'est pas ça. Nous venons de fêter Pâques et il est dit que la mort réside dans la séparation avec la vie divine. Et donc, en ce sens, la résurrection, c'est la suppression de cette séparation et c'est la mort à cette séparation. Donc ça, ça change complètement les données. Et l'important pour nous, c'est de pouvoir nous construire et de ne pas toujours mélanger le monde des vivants et le monde des morts avec le monde des vivants qui envahit le monde des morts en ne leur permettant plus de vivre et les morts qui envahissent les vivants en ne permettant plus aux vivants de vivre. Et en général, tout le monde envahit tout le monde. Et résultat, c'est le chaos. Et ce qui est important, c'est de remettre effectivement chacun dans son chemin pour qu'il puisse continuer son évolution.
Bon, vous avez écrit « Antigone, l'incarnation du sérieux absolu » dont parlait Kant.
Oui, parce que Antigone ne triche pas avec la loi des dieux. Et la caractéristique de la loi des dieux, c'est qu'on enterre les morts. Et que le respect de cette loi va au-dessus de la loi de la cité. La loi de la cité repose sur l'opposition ami-ennemi et elle respecte les amis et elle rejette les ennemis. Mais à un moment, quand il est question de la mort, on va au-delà des amis et des ennemis, on enterre les amis, on enterre les ennemis parce que là, on n'a plus affaire au monde. Amis, ennemis, mais on est en face de l'humanité et on est en face de la destination de l'humanité. Donc, ce que je trouve extraordinaire chez Antigone, c'est qu'elle est totalement fidèle à cette loi divine par rapport à la loi de la cité.
Oui, d'accord, c'est vrai.
Et que je trouve magnifique. Je ne vois pas pourquoi... certains ont vu le mal dans Antigone en voyant que celle-ci était la désobéissance même, la passion de la révolte pour la révolte. Pour moi, c'est une figure admirable.
Vous avez écrit « Quand un homme est capable de se détacher de tout, il est un être divin. Merci de m'expliquer cette pensée, que je ne rejoins pas, vous en doutez, et qui quelque part même m'effraie. »
Oui, parce que vous avez pas compris ce que veut dire le
détachement. Sans doute. Alors expliquez-moi.
Écoutez,
quand un homme est capable de se détacher de tout.
Il faut voir ce que c'est que les attachements. Et il faut voir aussi la prison, la violence des attachements, de la tyrannie et de la servitude que cela peut donner. Le problème de se détacher de tout, ce n'est pas d'être un mort-vivant, comme certains l'ont pensé. Et je comprends que ça vous fasse peur. Le problème, c'est d'être dans la liberté. Et être détaché de tout et être libre, c'est exactement la même chose. Et vous êtes libre. Et donc, quand on est libre, on n'est pas dépendant de quelque chose et on n'est pas dépendant même de son indépendance à l'égard des
Ça n'existe pas, d'être détaché de tout.
Mais si, ça existe.
Même humainement parlant.
Vous avez des gens qui sont libres.
Ça veut dire quoi?
Quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui est dans la paix. Quelqu'un qui est dans la sérénité.
Et on ne peut pas être attaché à certaines choses et être libre?
Non.
Je pense le contraire.
Mais non, parce que qu'est-ce qui se passe?
Être attaché à des choses bien et
mais
être
non,
libre.
Mais non, le problème qu'il y a, c'est d'arriver à... J'étais confronté à un cancer.
Oui.
Et je me suis dit, si je dois vivre, c'est bien. Et si je ne dois pas vivre, c'est bien aussi. Tout est bien. Et je crois qu'on est libre quand on comprend que tout est bien. Et donc, à partir de là, je vous assure qu'on sent ce que c'est que la saveur de la liberté.
Je comprends totalement ce que vous dites.
Et vous voyez, donc,
c'était pas évident.
J'accepte en ce sens fondamentalement. Je dois quitter l'appartement où j'ai vécu et j'ai adoré vivre parce qu'il me rendait des services. Et je me suis dit, si je dois le quitter, si je peux y rester par miracle, c'est bien. Et si je dois le quitter, c'est bien. Et pour moi, la voix qui me dit tout est bien, c'est la voix de la liberté.
Ah non, tel que vous le...
C'est ça que j'appelle...
Mais non, mais là, évidemment, je suis obligé de vous rejoindre.
Non, pas forcément. Mais
non,
enfin,
mais
moi,
ce que vous dites, c'est formidable.
Ça. Voilà. Et je trouve qu'à un moment,
c'est
ça.
C'est mon frère qui disait ça aussi.
C'est ça, la liberté.
Il disait ça. Tu vois,
c'est
maintenant,
ça, la liberté.
J'ai plus peur ni de la vie, ni de la
mort.
Et
si vous voulez, j'accepte. Et puis, ça devrait vous faire plaisir. mais je pense qu'on est dans la main de Dieu.
Et moi,
je suis dans la main de Dieu et j'entends la parole du Christ qui dit « Ne t'inquiète de rien. »
Là, moi aussi,
est-ce
je
qu'il t'a
dit,
manqué des choses ? Il ne m'a rien manqué.
Oui.
Et j'accepte totalement, et vous ne pouvez pas savoir, quand je vis ça, je sens le sourire du ciel à l'intérieur et je me sens bien. Voilà.
Oh ben là, je comprends totalement. Non, mais là, je rejoins totalement, là. Parce que comme ça, c'était pas évident. Hein.
Oui, non, mais je comprends. Oui, parce que
détachement, moi, je me détache pas, je me détache pas.
Il y a celui qui joue à être détaché de tout, qui n'est pas détaché,
non, moi, je me détache
et qui
pas.
Est même attaché à son détachement.
Oui, ben non, pas du tout. Moi, je suis attaché à ce que je suis attaché, ça ne m'empêche pas une liberté. On ne se passait pas sur le même plan. Non. Alors, et dans ce que vous allez prendre comme une critique, ce qui est loin de l'être... Oui, alors, dans ce que vous pouvez prendre comme une critique, mais qui est loin de l'être, je désire uniquement une explication. Pourquoi revenez-vous sans cesse, dans ce chapitre, sur Diogène, que vous appelez un homme libre vivant une vie divine ? Parce que personnellement, je prends pour un grand déséquilibré, pardon de revenir sur lui, ce qui n'exclut pas, rassurez-vous, ses qualités. La question est la suivante. Que dites-vous au Christ qui nous a offert la terre et qui nous a voulu incarner ?
Alors, deux choses. La question de Diogène, c'est se comprend par rapport à l'époque et par ce que dit Diogène Laërce dans la vie et les enseignements des philosophes illustres. Ce qui caractérise Diogène, c'est que il était sidéré par l'arrogance des Athéniens de son époque. Tout le monde se croyait quelqu'un de bien. Même chose chez Socrate. Tout le monde pensait de la sagesse. Ils savent tout. Ils se prennent pour des types très bien. Et ce que je trouve formidable, c'est qu'il y a des Socrates qui nous rappellent que seuls les dieux sont sages. Et Diogène dit, mais pour qui te prends-tu ? Est-ce que tu t'es regardé ? Je trouve ça merveilleux. J'aime beaucoup. Et moi, j'aime ceux qui également me le rappellent à moi-même.
D'accord.
Voilà. Bon. Voyez, donc ensuite, vous avez l'incarnation. Ah, l'incarnation, c'est quelque chose d'extraordinaire qui n'a pas... Ce n'est pas simplement la liaison au corps, c'est la liaison à l'intimité, à la proximité. Dieu n'est pas au-delà comme un principe abstrait. Comme dit une sourate du Coran, il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Comme le dit saint Augustin, cet étranger plus intime à toi-même que toi-même.
Ah oui, c'est la vérité.
Et ce que je trouve merveilleux dans l'incarnation, c'est que c'est fou ce que l'incarnation symbolise le céleste. Et là, on s'aperçoit, ça a été merveilleusement montré par mon amie Annick de Souzenel, quand elle montre que chaque organe du corps exprime quelque chose qui est une vérité spirituelle, métaphysique, profonde. Ça, c'est l'incarnation. L'incarnation, ce n'est pas avoir un corps. C'est vivre le ciel jusque dans le corps et découvrir le corps jusque dans le ciel.
Oui, c'est un instrument, le corps.
C'est un temple.
Magnifique.
Ah non, mais c'est plus que ça.
Oui,
vous qui aimez le corps.
Oui, un temple aussi, mais ça peut être un instrument aussi.
C'est ce que dit Paul quand il dit « le corps est le temple de l'esprit », qui est une phrase géniale. C'est absolument extraordinaire d'avoir.
Oui, c'est génial.
C'est génial.
Vous avez raison.
C'est absolument.
Oui.
Voilà.
Mais quand même, quand j'ai un instrument, je vous comprenais. Un instrument de musique, c'est lié, c'est les ondes.
Écoutez, c'est vrai que c'est un instrument céleste. C'est comme un Stradivarius,
oui,
si vous voulez.
Oui, exactement.
Voilà.
Oui.
Oui, oui.
Ben oui.
Oui, oui, vous avez un Stradivarius.
Nous avons
un Stradivarius.
Dieu joue dessus, la vie joue aussi. Enfin,
oui,
il y a une symphonie qui se compose.
Bon,
on la rendra après un jour. Oui, vous parlez beaucoup de Spinoza. Moi, il ne m'intéresse pas beaucoup. Mais vous parlez beaucoup de Spinoza, surtout en ce qui concerne l'être et l'éternité. Alors, j'ose vous demander que vous apporte Spinoza, quel éclairage sur la vie. Parce que Spinoza, Dieu était spécial pour lui quand même. Hein.
Dieu est un puits de vie qui déborde de vie. C'est ça que veut dire.
Oui.
Et c'est un débordement de vie. Qu'est-ce que m'apporte Spinoza ? Spinoza est... m'apporte quelque chose parce que j'aime ce penseur qui dit il n'y a qu'un philosophe dans l'histoire de l'humanité, c'est le Christ.
Ça, Je ne savais pas qu'il avait dit cette phrase.
Eh oui.
Il a dit cette phrase ?
Il a dit cette phrase.
Alors qu'il ne croit pas vraiment en Dieu.
Mais pas du tout. Il ne croit... Il est comme Zindel, et moi je suis comme Zindel. Oh
ben Dieu, je l'aime énormément, Zindel.
Dieu, ce n'est pas ce que je crois, c'est ce que je vis.
Oui.
Et donc Spinoza, enfin, il le vivait, Dieu.
Oui.
Et donc je crois que Spinoza, comme le dit... comme...
Mais pour lui, c'était confondu avec la nature quand même.
Mais pas du tout, qu'est-ce que c'est que la nature ?
Je sais pas, il n'arrêtait pas de dire qu'il n'y avait pas de Dieu transcendant.
Mais pas du tout, il faut comprendre une chose, c'est que Dieu n'est pas séparé de la nature. Et pour comprendre que Dieu n'est pas séparé de la nature, il faut dire immédiatement la nature quand on entend Dieu, pour voir la proximité de Dieu avec toute chose.
Alors, il n'a pas créé la nature, il est la nature. Mais dans c'est, Spinoza, c'est
la
ça.
Mais il est présent dans la nature. Et, et c'est ce qu'on appelle un pananthéisme et non pas un panthéisme.
D'accord.
Et donc, la nature, pour nous, c'est les espaces verts, la faune et la flore.
Oui.
Ce n'est pas du tout ça pour
Alors,
Spinoza.
Qu'est-ce qu'il nous apporte, Spinoza ?
Spinoza, il m'apporte le fait de vivre la philosophie et d'avoir défini ce que c'est que l'éthique même, à savoir que le Christ n'a pas parlé de la morale, il a été la morale.
Ah oui.
Il n'a pas parlé de Dieu, non. Il a été Dieu. Dieu. Donc c'est ça qui est important. Et je le remercie aussi pour la dernière phrase de l'éthique, proposition 45 de la partie 5
Quelle
de l'éthique,
mémoire, vous avez...
dans lesquelles Spinoza dit « Ce n'est pas parce que nous sommes vertueux que nous sommes dans la béatitude, c'est parce que nous sommes dans la béatitude que nous sommes vertueux.
Oh » ben j'applaudis la phrase.
Ben voilà.
J'applaudis la phrase.
Je trouve ça admirable. Et que l'éthique de Spinoza s'accomplisse à travers cette phrase est proprement merveilleux. Merci Spinoza.
On a chacun nos philosophes qu'on peut remercier. Hein.
N'oubliez pas que Bergson a dit cette phrase incroyable. Oui. Tout homme a deux philosophes. Il a la philosophie de Spinoza plus la sienne.
Oui, mais je m'en moque de ce qu'il a dit.
Je m'en moque pas
Moi, je dirais tout homme a deux philosophes, Bergson et Nietzsche. Vous voyez, on dit chacun ce qu'on veut.
Et la sienne. Vous avez la vôtre. Mais il y a quelque chose que j'aime, c'est la philosophie de la vie.
Et ça, mais vous la trouvez chez de nombreux philosophes.
Mais oui.
Elle est chez Spinoza, je reconnais. Bon, elle est chez Bergson énormément.
Oui,
elle est chez Nietzsche énormément.
Bien évidemment.
Je veux dire.
Mais non, il n'y a pas que Spinoza. Je vous dis que ça m'apporte quelque
chose. Oui, c'est ce que je vous demandais.
Voilà.
Donc, vous avez bien fait de me répondre.
Mais j'essaye.
Mais on a tous nos philosophes vers lesquels. À qui on ressemble un minimum.
Écoutez, il y a des gens qui vous aident à avancer.
Oui.
Vous et moi, j'aime énormément comme vous, Bergson et Nietzsche.
Voilà. C'est les deux qui m'ont le plus aidé.
Oui, non, mais je comprends.
Avec Freud d'un autre côté, parce qu'il est. Je sais, ça n'a rien à voir. C'est pas un philosophe.
Mais ça vous a aidé et ça vous
a
aidé.
Vous n'êtes
pas la seule. Il y a
beaucoup de gens qui disent
moi, ça m'a beaucoup aidé. Exactement.
Oh, mais Nietzsche est un coup de foudre.
Oui.
Mais
très bien.
Il faut déjà qu'on leur ressemble un peu pour que ça résonne en nous.
Oui. Très bien.
Ces philosophes-là, vous voyez ?
Très bien.
Ça, c'est Platon, je l'aime. Hein.
Ah, mais merveilleux.
Dieu sait que je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a raconté, mais je l'aime. Mais lui, c'est un grand écrivain.
Platon. C'est vrai. Ah, c'est vrai.
Un homme de théâtre. Hein ? Aujourd'hui, on lui verra ses pièces. Bon, vous parlez du génie et du sublime, et je vous demande ici de résumer en peu de mots votre pensée. On l'avait fait lors de nos nombreux entretiens. On l'avait fait. De parler du génie et du sublime. Mais qu'appelez-vous sublime, puisque vous avez écrit « Le sublime n'est pas dans les choses, mais dans l'état intérieur qui les vit ». Et vous donnez un très bel exemple. Quand on regarde un ciel étoilé un soir d'été. Le sublime. Mmh. Bon, je passe à une autre question.
Non, pas du tout. J'aime énormément ce que dit Kant à propos du génie et du sublime. Mmh. Le génie est humain et permet à un moment de découvrir des lois d'harmonie, de goût, d'équilibre merveilleuses. Et qui fait qu'on va vivre quelque chose de formidable, qui est la communication et le plaisir de l'humanité vivante à l'occasion du génie et de l'art qui s'exprime dans le génie. Et ça, c'est le côté génial, si vous voulez, c'est-à-dire ce moment du beau où l'idéal devient vivant. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec le sublime ? Le sublime est... la manifestation de la métaphysique chez Kant, quand cette métaphysique n'est plus une science, mais une expérience. Il peut y avoir la morale qui fait que je me dépasse parce que je réponds à l'appel du devoir. Et qu'est-ce qui se passe dans le sublime ? Je suis dépassé et je m'aperçois qu'il y a quelque chose d'étonnant, c'est de vivre en étant dépassé. Et alors là, ça dépasse toute imagination. Je peux à la fois être là, en même temps avoir le sentiment que je ne suis pas là, et je vis simultanément le fait d'être quelque chose et en même temps d'être rien, et d'être rien en étant quelque chose. Je vis la coïncidence entre l'être et le néant à travers le sublime. Et alors là, ça dépasse toute imagination. Je trouve que Kant fait une découverte à travers le sublime qui est le dépassement de l'opposition entre l'être et le néant. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est des choses, si vous voulez, qu'on peut tous ressentir. On n'est pas grand-chose, on n'est rien. Et pourtant, on est quelque chose. On est quelque chose et pourtant, on n'est rien. Et donc, on est complètement dépassé. Et là, il y a quelque chose qui est indéfinissable, qui est de l'ordre du beau.
Oui.
Ou du plus que beau. C'est la même expérience de la beauté, mais sous cette forme, qui n'est pas une forme harmonieuse.
Bon, ne le voyez pas comme une critique. Il y a parfois dans ce livre des phrases un peu ésotériques. Hein, et on n'en perçoit pas toujours le sens. J'en cite deux. La pensée qui pense veut la pensée. Je cite l'autre. La vie qui vit veut la vie. La chose semble aller de soi, mais quand vous parlez, je devine qu'il y a derrière vos propos un sens véritable.
Alors, j'aimerais pas que je pense... L'ésotérisme est pour moi une chose magnifique qui vient de la grande connaissance et qui dire que la grande connaissance est cachée, ça c'est pour aller vers un plus de connaissance. Mais vous pouvez me dire, et je l'accepte volontiers, que c'est pas clair ou qu'à un moment, on a l'impression que je tourne en rond dans mon langage. Mais non, je le pense. Je pense qu'il y a une volonté de vie, que cette volonté de vie est divine parce que Dieu veut que tout vive, et que cette expérience de la volonté de vie, on la retrouve en nous dans la volonté de vie et dans la volonté de penser. Il y a quelque chose en moi qui attend la pensée, qui veut la pensée. Il y a quelque chose en moi qui veut la vie. Et ça, c'est l'énergie de la création et de la liberté, et de l'énergie tout court.
Bertrand, je me demandais si vous n'aviez pas trop bu ce soir-là avant d'écrire cette phrase.
Oui.
L'extase érotique comme cosmos.
Oui.
Le cosmos. Oh, j'arrive pas à le dire. Le cosmos comme extase érotique.
Oui.
Que vouliez-vous dire par cette phrase qui m'a aussi paru ésotérique?
Écoutez, je pense que des choses les plus extraordinaires l'extase de érotique. La vie est de faire l'amour.
Oui.
Et qu'il y a quelque chose qui est paradisiaque au sens de la relation avec l'autre.
Oui.
Et que derrière, c'est comme tout l'univers entier était présent. Et je trouve que c'est une des choses les plus incroyables de beauté qui puisse exister. Et je trouve ça merveilleux. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Et je crois à l'extase
cosmos,
érotique.
Franchement, c'est fort, c'est beau. Hein,
ben oui, mais je pense qu'à un moment, le plaisir et le plaisir cosmique... Vous savez, quand vous aimez, quand un jour quelqu'un vous a dit qu'il vous aimait, eh bien, vous avez aimé le monde entier. Et pendant une fraction de seconde, vous étiez en harmonie avec tout. Et il y avait une harmonie, et il y a une harmonie avec le ciel, la terre, la beauté. Et que tout est terriblement sensible, charnel.
C'est vrai, mais je n'aurais pas pensé au cosmos quand même.
Ben oui, mais le cosmos, c'est, signifie cet ordre divin. Et je trouve que les yeux d'une femme, quand vous avez fait l'amour avec elle, et qu'elle est... C'est peut-être comme quelqu'un qui est comme innocent et en même temps quelque chose d'éperdu, de reconnaissant. Mais c'est d'une beauté infinie. C'est extraordinaire.
Vous avez intérêt de rester avec la femme qui vous a fait ça parce que l'autre ne supporterait pas ce que vous d'entendre ça après. Hein.
Ah non, mais c'est...
Donc
c'est
vous avez intérêt. Hein,
non, mais je parle à la femme absolue.
Oui, dans, ah oui.
Et c'est extraordinaire. Et le mystère du féminin et ce que j'ai reçu, mais il était inimaginable de beauté. Et vous le savez parce que vous l'avez vécu dans les bras d'un homme. Moi, je l'ai vécu dans les bras d'une femme. J'ai trouvé ça extraordinaire.
Oui. Ben, moi, j'avais écrit un jour un livre, un hymne à l'homme. J'avais 20 ans.
Oui.
Dans 18 ans.
Bon.
J'avais rien connu du tout, hein, à part les passions, les coups de passion.
Oui.
Parce que ça, j'en ai fait voir à mes parents longtemps. Coups de passion. Mais j'étais une jeune fille.
Oui.
Et j'ai écrit tout un livre érotique.
Bon.
J'ai cru.
Oui.
Bellefond m'appelle. Il me dit, c'est très, très bon comme livre. Seulement, voilà. On dirait que c'est une religieuse qui l'a écrit. Alors, il faudrait mettre du porno dedans. Après, on est devenu, puisqu'il m'a pris pour un autre livre. Je n'y changerais pas une ligne.
Non.
Parce que je voyais l'homme comme un dieu. Hein.
Oui.
Enfin, j'étais amoureux.
Il voyait comme un sexe.
Oui. Non, mais il a été...
Voilà.
C'est magnifique d'avoir dit ça.
Écoutez,
je vous envoie un autre.
Je trouve ça très, très intelligent.
C'est dangereux, ce fauteuil. J'envoie un autre éditeur qui m'écrit, Papa Harry.
Oui.
Qui regarde ce qu'il me met. Il me met Mademoiselle, passez votre bac d'abord, et après vous viendrez me revoir. Parce que je vais envoyer l'hymne à l'homme. Oui. Il avait compris, j'avais pas mis mon âge.
Oui.
Et il avait compris. Bon. Bon, alors on va terminer bientôt.
Bon.
Attendez. Oui, vous avez écrit. Tout change, même notre corps, et nous allons chaque fois vers une vie autre. Et là, j'ai entendu ma mère Gina, qui avait une profonde intelligence aussi, et qui m'a tant appris, me dire un jour, il y a plusieurs vies dans la vie.
Oui. Là, vous le pensez ? Moi, je pense qu'il y a déjà 7 vies dans la vie. Il y a
7 le fait...
Oui.
Comme les chats ?
Bah, écoutez, en tout cas, moi, je vois la naissance, oui. Je vois l'enfance, je vois l'adolescence,
mais c'est vrai.
Je vois l'âge adulte. Je vois le fait de devenir un senior. Je vois ensuite le grand âge. Et puis je vois ensuite la disparition.
Non mais c'est vrai.
Et je vois, et quand vous analysez, vous apercevez que vous passez par 7 mutations. Et à chaque fois, vous avez une conscience amplifiée. Parce que tout ce que vous avez n'est pas perdu et se trouve augmenté par ce que vous vivez.
Ah oui. Bon. Que pensez-vous justement de l'homme augmenté ? Car il a dit de vous, de la période du transhumanisme, vous ne semblez pas à l'inverse de nombreuses personnes en faire un drame, car vous dites avec intelligence et lucidité qu'il y a désormais longtemps qu'il est augmenté, et vous citez les diverses prothèses, lunettes, implants, etc., etc. Et vous écrivez, c'est bien, il ne faut pas dénigrer le progrès. J'ai donc cru que vous ne verriez aucune incompatibilité entre l'homme augmenté et l'homme déifié. Car une chose est sûre, l'homme sera toujours là. On ne peut ni la fabriquer, ni l'extraire, mais étrangement, subitement, vous affirmez, l'homme augmenté ne sera plus un homme. Bref, Bertrand, vous tranchez. Vous ne parlez même plus de l'homme déifié, mais simplement d'un homme. Pourquoi Bertrand ne serait-il plus un homme ? Votre réponse est primordiale. Merci de la donner. Pourquoi
La caractéristique, c'est que pour être un homme, vous n'avez pas besoin d'être augmenté. Le simple fait d'être homme permet de montrer la plus merveilleuse manière d'être un homme. Et donc, si vous voulez, l'augmentation est une vision complètement extérieure où on rêve d'un homme tout-puissant et on appelle l'augmentation ce qui permettrait d'être un homme tout-puissant. Et ce qui est ennuyeux, c'est quand vous rêvez d'un homme tout-puissant, c'est que vous avez peur de ne pas être tout-puissant. Et finalement, vous entretenez l'homme dans sa peur. Et qu'est-ce qui fait que l'homme est un homme ? C'est qu'au fond, il a renoncé à la toute-puissance et le simple fait d'être un homme le comble. Et donc, c'est ça qui me paraît important. Donc, qu'est-ce que vous voulez ? On a déjà augmenté l'homme avec différentes prothèses, on continuera de l'augmenter. Ça ne change strictement rien. Je vais vous dire, rien ne remplace la relation humaine. Rien ne peut remplacer le simple fait d'être un homme. Et je crois que le reste, ce sont des effets de mode qui sont appelés à disparaître. Alors, on en parle beaucoup. Pourquoi ? Parce que quand on en parle, immédiatement, ça permet de capter beaucoup d'intérêt et beaucoup de fric. Vous voyez, mais derrière tout ça passera. Il y a des moments où on se dira, tu te rends compte, il y a 10 ans, on parlait de l'homme augmenté, plus personne n'en parle. Et ça n'a aucun intérêt. Ce sont des modes qui passent. Ce n'est pas ça qui va changer. En revanche, que vous, personnellement, chacun à un moment... fassiez une vraie expérience et que vous soyez pas simplement augmenté mais transfiguré et à un moment ressuscité, c'est autre chose.
Oui,
le Christ n'est pas venu apporter l'homme augmenté.
Non.
Il est venu apporter l'homme royal. L'homme augmenté va pas faire de nous un homme royal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'homme royal. L'homme rayonnant, la femme rayonnante que vous êtes.
Merci. Vous savez, Bertrand, parfois, vous avez des phrases que vous imaginez comprises par tous, mais ça, on l'a vu. Bon, vous avez cité Baudelaire et les correspondances, et vous avez affirmé que le monde de l'âme rejoint l'âme du monde, tandis que l'âme du monde rejoint le monde de l'âme.
Oui.
Pouvez-vous en dire davantage ? Qu'appelez-vous, moi je le sais parce que j'ai lu tellement vos livres, mais qu'appelez-vous le monde de l'âme et l'âme du monde ?
L'âme est le principe personnel de nous-mêmes, et nous avons quelque chose qui est extraordinaire, c'est la communication d'âme à âme entre nous comme être personnel avec le monde vécu comme monde personnel. Et nous sommes dans le monde de l'âme et l'âme du monde quand tout d'un coup il y a un rapport entre nous et le monde qui est un monde personnel. Et qu'est-ce qui permet à ce monde personnel de s'exprimer ? C'est la poésie. Où tout d'un coup, vous voyez quoi ? Que l'émotion que provoque le monde sensible à l'extérieur de vous éveille un langage sensible, extraordinaire, merveilleux. Et c'est ça, la communication de l'âme à âme. Et quand vous avez vécu ça, vous n'avez pas besoin d'autre chose.
Je comprends. Cher Bertrand Vergely, cher Bertrand, on va cesser notre entretien si vous le voulez bien. Il y a divers sujets, divers thèmes dans ce livre riche. Et on ne peut pas tous les aborder, mais je crois quand même que nous avons survolé ces pages en disant pourtant le principal. Bon, j'espère que vous le pensez aussi, car mettre en lumière vos livres ont été ma joie. Je suis certaine que nos auditeurs vont se précipiter sur ce livre. Je répète, Dieu veut des dieux, édition MAM. Je vous remercie pour cet entretien. Je vous souhaite un très bel été. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous salue chaleureusement. Bon dimanche.
Merci, chère Isabelle.
Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Isabelle Prêtre. Émission préenregistrée le 14 avril 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie dimanche 17 mai, de midi à 13h30 et réalisée par Michael. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.